Une semaine, une radio. Une semaine, une radio.
Allez, on va en région parisienne, même à Paris carrément en fait, avec Guy, responsable de la programmation de FPP, Fréquence Paris Pluriel. Salut à toi.
Salut.
Présente-nous la radio.
Au niveau de la programmation, il y a des équilibres assez précis. Il y a des magazines politiques et sociaux en soirée, des magazines des différentes communautés de l'immigration, surtout le week-end. En nuit, on est exclusivement en magazines musicaux. Et dans la journée, on est magazine culturel et politique dès 18h le soir. On est une radio réellement associative avec un tout petit centre, 4 ou 5 personnes, ça dépend des emplois aidés qu'on a, et une grande périphérie de presque 110 émissions qui produisent pour 2/3 ici et 1/3 à l'extérieur. Il y a une ligne éditoriale très à gauche, très citoyenne et surtout engagée aux côtés des luttes de l'immigration et des questions de sans-papiers et tout ça. Bien sûr, il y a des magazines écolos, il y a toute une série de choses.
Et j'ai envie de te demander aussi l'historique, dans quel contexte elle s'est créée, quand,
alors,
pourquoi, avec qui.
On est à la fin des années 80 et le secteur associatif radio parisien qui a été très florissant. Moi, j'appartenais à l'époque à un collectif qui s'appelait Radio Tomate, qui a existé en clandestinité dans la fin des années 70, au début des années 80 et qui a obtenu une fréquence dans les premières radios associatives parisiennes. Après la fin des années 80, il y a beaucoup de radios qui se sont effondrées pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de mauvaise structuration interne, bataille d'ego, bataille de chef et tout ça. Et donc nous, on a perdu l'antenne Radio Tomate à la fin des années 80. On l'a récupérée en déposant un projet beaucoup plus large avec beaucoup d'associations, notamment du secteur tiers-mondiste et tout ça sur Paris. On l'a obtenu en 92, après 2 ans de bataille, quelque chose qui regroupait déjà 6 entités de radio existantes, plus le fait qu'on s'est à l'époque lié avec la CNRL, qui était l'organisation syndicale, on pourrait dire, du secteur de gauche des radios associatives, et qui a soutenu notre projet, et son président d'époque, Jacques Sonsin, a été notre premier président. Il l'est toujours, bien qu'il ne siège plus à Paris, il est toujours notre président aujourd'hui, qui vient de Radio Galère à Marseille.
Donc quand le projet se remonte, ouais. Vous êtes 6 radios à vous mettre ensemble?
À peu près, il y a une radio de Rouen, il y a l'ancienne radio Nanterre, il y a nous, Tomate, il y a le soutien de la CNRL et donc de Radio Galère de Marseille, et puis il y a différentes entités de radio qui avaient soit des demi-radios, soit des équipes qui étaient dans des radios comme Fréquence Gay, qui sont passées du secteur associatif au secteur commercial dans cette période, donc on cherchait refuge chez nous. Et puis, in fine, lors de la nuit bleue, on nous a dit qu'on aurait notre fréquence, mais qu'on nous demandait encore de faire des efforts pour récupérer d'autres radios qui ne l'auraient pas, notamment une radio du secteur associatif de l'immigration, qui avait été déposée en tant que projet autonome et qui n'a pas obtenu son projet et qui est rentré chez nous après.
D'où ce nom de Fréquence Paris Pluriel, voilà, parce que c'est voilà. Vraiment la question.
Il n'y avait pas la gauche plurielle à l'époque, donc. Mais oui, c'était ça l'idée, c'est qu'on soit multiples, divers et engagés.
Tu as commencé à nous le dire, hein, cette ligne éditoriale est quand même très marquée. Est-ce que ça vous a posé problème? Est-ce que vous êtes vraiment libre?
Poser problème, non. La liberté se paye assez parce que tu connais certainement les problèmes de financement généraux. Sur ces 30 dernières années, on est parti de 80% de subventions quasiment implicites via le fonds de soutien. À l'époque, il y avait une grosse subvention du FAS, qui était l'organisme qui se chargeait du soutien à l'immigration, sur un budget de fonctionnement surtout, qui n'était pas basé sur des appels à projets. Ça, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on n'a plus que 30% de subventions de fonctionnement, et qu'il faut nous démerder à trouver des appels à projets qui correspondent à notre ligne éditoriale, parce qu'on ne va pas non plus se vendre pour faire fonctionner la radio. Surtout aussi avec la réduction des emplois aidés, drastique. Sur Paris, je ne sais pas comment c'est en province, mais là, il y a une notification du préfet sur la réduction de 20% de la dévotion sur les PEP. C'est plus le fait qu'ils sont maintenant limités à 16 mois, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Donc évidemment, ça nous limite en période de formation et c'est un peu plus compliqué à fonctionner. Et c'est surtout douloureux pour nous de perdre nos collaborateurs souvent. Bon, heureusement, il y en a qui restent pour faire du bénévolat à l'intérieur de la radio. Je rappelle que la radio, c'est 200 bénévoles et 4 permanents, 5, ça dépend des moments. On a souffert du Covid, hein, comme tout le monde, je pense. Hein. Il y a eu une période un peu délicate, les transports fonctionnaient mal. Il y a des gens qui habitent loin, donc ça a été très compliqué. Donc on est en train de redynamiser l'antenne en ce moment, et je travaille à la mise au point de différentes nouvelles émissions. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des questions sociales et politiques qui sont plus larges, plus intéressantes d'être développées collectivement que fractionnées entre les communautés, les âges et tout ça. Donc on essaye de monter des magazines plus longs, en début de soirée, des 19h-20h30, qui sont des magazines d'actu, mais sur des formats longs. Hein. On n'est pas dans l'actu, on n'a pas les moyens de l'actu, on a plutôt l'envie de la réflexion même, donc ça tombe bien. Puis de toute façon, l'actu qui est en ce moment disponible, elle est toujours la même partout. Donc l'idée, c'est plutôt de retirer ce qu'il y a de l'actu comme questionnement et de tourner autour de ces questionnements.
On parle d'éducation aux médias, j'imagine, là, dans ce cas-là. Ouais, avec qui vous travaillez ?
Ben, on travaille quasiment seul. Il y avait la CRIMED, qui est une association très proche de nous très, très longtemps. Donc on a une option qui est maintenant assez connue de critique de médias professionnels. Hein. On est, nous, des amateurs et on souhaite le rester. Hein. Et on estime que c'est dans les compromissions, notamment pas seulement idéologiques, mais les compromissions économiques, qu'on risque de perdre notre âme. Et c'est un peu le glissement qu'on essaye d'éviter avec beaucoup de difficultés ces dernières années. De ne pas être happé par les appels à projets qui sont toujours dans le sens du poil de celui qui nous paye, si tu vois ce que je veux dire.
Alors du coup, vous y allez pas ?
Du coup, on y va le moins possible, ou on va là où c'est possible de dire quelque chose qui nous appartient.
Présente-nous la zone de diffusion, j'allais dire les...
Ah, tu veux dire au niveau géographique ?
Voilà.
Grosso modo, on est autorisé sur Paris et ce qu'on appelle la petite couronne, c'est-à-dire les départements 92, 93, 94, qui encerclent Paris entre 10 et 15 km de profondeur. Bon, il y a des endroits, on est entendu à 150 bornes de Paris, hein, mais il y en a d'autres, ça s'arrête pile là. Ça dépend, bon, comme tu le sais, de la topographie générale et de nos équipements et de la région dans laquelle on émet. On nous avait mis d'office dans la RNP qu'on a finalement refusé pour les raisons de non-financement, qu'on nous explique comment on multiplie par 6 nos frais de diffusion si on n'a pas de subvention possible à l'Élysée. Et en plus, dans la RNT, on perd notre autonomie de diffusion. On est obligé de passer par un diffuseur. Donc imaginons qu'il y a un problème, il suffit qu'on téléphone à ce diffuseur pour lui dire de nous couper, et ça sera fait dans la seconde qui suit. Et on vient d'un secteur qui a été remis en question souvent, d'une lutte longue des années 70 pour conquérir ce droit d'émettre et cette autonomie. Tous les gens qui ont participé à la RNT renoncent à ce droit. Ce n'est plus eux qui émettent leur propre programme, ils désignent quelqu'un, un commercial, pour le faire. Sous contrôle de ce qu'on appelle plus le CSA, mais j'ai du mal à numériser le nouveau nom.
À qui vous vous adressez ?
Comme public, on est assez large, hein, culturellement. Bon, il y a évidemment cette particularité de l'immigration. On a quand même une bonne dizaine d'émissions des différentes communautés de l'immigration. Donc ça, on y tient vraiment. Les émissions, on tient à ce qu'elles soient en deux langues, hein, pour des raisons de compréhension et aussi de solidarité des uns avec les autres. C'est un peu difficile hein, chez nous. Hein. Il y a les Kurdes et les Turcs, par exemple. Hein. Donc il a fallu discuter du bien fondé des uns et des autres collectivement. C'est aussi un centre un peu de discussion comme ça, large. On s'adresse au milieu populaire en général. On n'est pas élitiste, on n'est pas une radio catégorisée d'extrême gauche, on est plutôt une radio populaire. Voilà. L'idée c'est que à peu près toutes les musiques et toutes les cultures soient représentées, du point de vue non commercial, hein, ce qui est déjà pas mal. Comme tu le sais, on a un forfait de la SACEM pour les musiques qu'on passe et tout ça qui est assez peu cher, qui ne nous oblige pas à faire une déclaration formelle sur ce qu'on diffuse à l'antenne. Et nous, on est vraiment issus d'un secteur non commercial, y compris les émissions sont attentives à ça, à ne pas passer le top 40 à l'antenne. Culturellement, on est plutôt dans le théâtre populaire, dans les animations de quartier, les possibilités aux gens de se développer culturellement dans la musique, dans l'expression. Voilà, c'est aussi un centre de formation permanent, on pourrait dire. Il y a des gens qui nous quittent, des gens qui arrivent, on forme beaucoup de gens sur la base de l'autonomie des collectifs. C'est-à-dire, on ne fournit pas de soutien technique permanent à l'ensemble des émissions. On leur propose de les former, après elles deviennent autonomes, ce qui nous permet d'avoir un turnover et de continuer un travail de formation sans être bloqué par la production nous-mêmes de nos propres émissions. Et donc on demande aux gens, notamment ceux qui sont en direct, d'être en collectif, pour des raisons de permanence aussi.
On termine avec les éléments de com.
La fréquence, c'est le 106.3. Et on émet 15-20 km autour de Paris, ce qui nous garantit quand même un bassin d'écoute important et on est considéré par le CSA et les sondeurs comme la plus grosse radio associative de Paris. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup, hein, de toute façon. Hein. Se sont cassés la gueule les unes après les autres, malheureusement. On a un site internet, rfpp.net, sur lequel on peut trouver les émissions récentes sur l'Ukraine, par exemple, un accès vers les archives qu'on est en train de remettre en forme, parce qu'on a 30 ans, donc il y a vraiment du travail à faire. Les archives, c'est un choix éditorial, sont faites essentiellement sur des gros dossiers politiques, pour donner des éclairages anciens sur l'actualité nouvelle. Et elles apparaissent en archives sur un créneau quotidien.
Merci Guy pour FPP.
Je t'en prie. Merci à vous. Ciao.